Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Rafik de l'équipe Livre de Foot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien. Je reçois aujourd'hui Philippe Rodier pour échanger autour de son dernier ouvrage La méthode des champs, paru aux éditions Marabout. Dans ce livre, l'auteur nous livre les secrets du management Made in DD, mais aussi les échecs et succès qui ont forgé l'identité singulière du sélectionneur français. Sans plus attendre, place à l'échange. Bonjour Philippe, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Très bien, merci. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes là, pour parler de ton dernier bouquin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour celles et ceux qui vont écouter cet épisode ?
Bien sûr. Bon, déjà, je vais être franc, c'est la question à laquelle j'ai le plus de mal pour répondre parce que j'ai un parcours assez polyvalent. Bah, en gros, j'ai été joueur professionnel d'e-sport et jeux vidéo joués en format compétition dans les années 2000. Alors je dis professionnel, mais c'était pas la scène professionnelle d'aujourd'hui, donc j'étais pas salarié, mais il y avait un petit peu d'argent derrière. J'ai été vice-champion de France en 2009, champion de France en 2010. Et à la suite de ça, bah, j'ai entamé une carrière de journaliste chez 11 Mondial. Ça a duré un petit temps, et puis Marcelo Bielsa est arrivé en France, ça m'a donné envie d'écrire des livres, et j'ai commencé ma carrière d'auteur. J'ai publié 5 livres. Et j'évolue aussi dans le milieu donc de l'e-sport en tant que manager auprès de jeunes joueurs en ce moment.
Très bien. Du coup, on reviendra un peu plus loin du coup sur le volet management hors terrain de foot, parce que dans tes bouquins, il y a quand même pas mal de transversalité entre les disciplines et il y a pas mal de benchmark qui se font par rapport à d'autres disciplines sportives. Déjà, pour commencer, au niveau de ton aventure littéraire sur cet ouvrage, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur la genèse de ce bouquin ? Pourquoi parler de Didier Deschamps ? L'aspect aussi recherche d'éditeur, est-ce que c'était facile, est-ce que c'était le parcours du combattant, on est venu te chercher, c'est toi qui as démarché, dis-nous tout.
Bah, pour commencer, pour les éditeurs, moi j'ai plus trop de difficultés à négocier mes ouvrages, mais je pense que c'est pas trop prétentieux quand je dis ça, mais je l'ai mérité, c'est-à-dire que j'ai énormément travaillé, j'ai bourlingué comme on dit à proposer beaucoup de manuscrits, et ce qui m'a permis d'avoir des contacts assez intéressants dans le milieu. Donc aujourd'hui, j'ai plus trop de difficultés à négocier mes ouvrages et j'en suis extrêmement heureux. Et je remercie très vivement M. Benoît Bontou et Alizé Andrès chez Marabout Hachette qui ont répondu immédiatement favorablement pour ce livre sur Deschamps. Après, sur la genèse, en fait, il n'était pas prévu. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu envie en fait, d'écrire un livre sur une compétition, c'est-à-dire de commencer le day one de la compétition et faire une sorte de journal intime ou un journal de bord, on va dire, sur tous les événements possibles en rapport avec l'événement. Et donc, il y avait la Coupe du Monde qui était en train de se jouer. Et j'hésitais à le faire en direct, en fait, parce que je me disais que j'avais la capacité d'écrire assez vite pour le faire pendant la compétition. Et en fait, un média m'a appelé, c'est l'Express de mémoire, et ils m'ont commandé un papier sur Deschamps, en fait. Et on était en période de fête, enfin, les fêtes allaient approcher, je crois, de mémoire, où c'était peut-être période de vacances où ils étaient en sous-effectif dans la rédaction. Et en fait, le lendemain, ils me rappellent et ils me disent bah, le papier, en fait, on préférait le transformer en interview parce que ça nous ferait gagner du temps. Moi, j'avais commencé mon papier, donc vu que j'écris vite, j'avais déjà, je crois que j'avais 15 000 signes en une soirée ou 20 000 signes de prêt à leur envoyer. Et en fait, le lendemain, on a fait l'interview ensemble, donc avec leur rédacteur en chef. Et à la sortie de l'interview, bah, je me suis dit, maintenant, t'as une interview qui va sortir sur le sujet, t'as 20 000 signes de disponibles, et Didier Deschamps est l'entraîneur que tu connais le plus, que tu as le plus étudié. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas partir sur un livre, pardon. Donc, j'ai envoyé l'interview et le départ du manuscrit, donc un papier qui était déconnecté d'une totalité d'un manuscrit, on va dire. Et Hachette a répondu en 24 heures en me disant « Let's go Philippe, on y va ». Et je suis parti dessus et je l'ai écrit extrêmement vite. Mais j'aurais pu écrire vite que sur ce sujet précis, parce que Deschamps est l'entraîneur que j'ai le plus étudié, mais depuis j'aime le foot, en fait, je crois.
Même c'est sûr, de toute façon, c'est un personnage qu'on apprend à découvrir, parce qu'on croit le connaître à travers les différents reportages et contenus et toutes les lignes qui ont été écrites sur lui. Mais là, avec ton livre, on a carrément d'autres facettes qui émergent, et du coup, c'est plus qu'intéressant. Au niveau de l'écriture, du coup, même si tu écris vite, tu as quand même un gros travail de documentation qui a été réalisé dans cet ouvrage avec des notes plus qu'intéressantes et des sources et un travail de sourcing qui est très, on va dire très lourd. Ça t'a pris combien de temps depuis la rédaction où on t'a dit OK, on avance jusqu'à la remise à l'éditeur pour la relecture?
Donner la vraie réponse, mais je tiens à dire qu'il faut pas, si un jeune auteur entend ça, il faut pas tabler sur ça. Moi, j'ai mis 2 mois à l'écrire, en fait. 2 mois à l'écrire et à le façonner avec les notes de bas de page. Mais moi, je vis avec 3 tableaux chez moi, en fait, avec les trames des livres que j'écris, avec des post-it partout. J'ai une bibliothèque entière qui est consacrée à l'écriture de mes livres. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque traditionnelle et une bibliothèque pour l'écriture de mes livres avec tous les ouvrages rangés selon les besoins, etc. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai compris tout de suite que c'était un métier qui était très difficile, sincèrement, au niveau mental et au niveau énergie. Et en fait, j'ai tout optimisé comme pourrait le faire un entraîneur de foot pour ses entraînements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'écris très vite. C'est parce qu'en fait, j'ai vraiment réfléchi à comment je pouvais améliorer mes processus d'écriture. Et je trouve que c'est presque logique de faire ça. Parce que, bon, je vais parler de Thibault Leplat, qui est écrivain dans le milieu du sport. Pour moi, il est écrivain. C'est vraiment un écrivain au sens noble du terme. Moi, j'ai un peu du mal à dire que je suis écrivain. Je suis plutôt quelqu'un qui étudie beaucoup et qui après reproduit ce qu'il a étudié dans des livres. Donc, c'est aussi pour ça que j'arrive à écrire rapidement. Et après, peut-être que ça se voit pas fondamentalement dans mes livres, et j'en serais très content. Mais il y a des passages aussi qui se répètent un peu, c'est-à-dire qu'il y a des notes que vous avez vues dans l'entraîneur idéal qui sont aussi présentes dans le livre sur Deschamps parce qu'elles avaient du sens dans ce livre-là. Mais aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à m'organiser une trame littéraire et à trouver des références assez rapidement, donc j'arrive à aller assez vite. Mais là, par exemple, je viens de commencer sur un bel ouvrage sur un sujet qui est un peu différent. Bah, je sais que ça va me mettre beaucoup de temps. Et pour tempérer, l'entraîneur idéal, ça m'a pris 4 ans d'écriture pratiquement. Donc, au départ, je pense que j'étais une petite voiture sans le turbo, on va dire. Et à force d'écrire, j'ai pris en expérience, j'ai compris les processus pour gagner du temps. Et à côté des livres aussi, j'ai travaillé en rédaction pendant pratiquement 5 ans, j'ai écrit un nombre de signes absolument fou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est une question d'expérience, on va dire.
Très bien. Et sans, on va dire, rompre on va dire, un secret industriel ou une méthodologie, justement, ce plan de jeu, entre guillemets, et ce plan d'écriture, ça t'a pris combien de temps à le structurer et à te dire, bon, voilà, j'ai le process qui est comme ça et je fais mon lean pour faire la chasse au gaspillage.
Je vois ce que tu veux dire, c'est une très bonne question. J'aimerais pouvoir y répondre de façon très claire, nette et précise parce que ça permettrait d'avoir des clés pour moi aussi. Je dirais que je l'ai compris avec l'entraîneur idéal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je suis arrivé en fait vraiment, j'avais jamais écrit un très grand format. Je pense que le plus gros format que j'avais écrit, c'était un 40 000 signes, un reportage pour 11 mondial. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, bah, on va écrire un livre. Et en fait, le fait de le faire tout seul, j'ai un parcours d'autodidacte et à comprendre comment les choses s'emboîtent entre elles, on va dire, bah, je sais pas, j'ai compris en fait comment fonctionnait l'écriture d'un livre. Et le conseil que je peux donner, hein, si ça, j'aime bien donner des conseils, si ça peut servir aux gens, c'est pour apprendre à écrire, c'est pas de regarder, enfin, pardon, c'est pas de lire des livres, de comprendre comment les livres sont construits, c'est plutôt de regarder des films, d'auteurs,
ou des celui de Steve Jobs, le dernier biopic sur Steve Jobs, par exemple, il apprend beaucoup à écrire parce qu'en fait, il est séquencé en plusieurs scènes et tu comprends très vite comment, on va dire, relier les chapitres entre eux et les liaisons qu'il faut mettre à travers le début du livre, le milieu, la fin, pour qu'il y ait des rappels à chaque fois dans le livre. Mais fondamentalement, moi, j'ai appris à écrire en regardant plus de films et de séries qu'en lisant des livres, honnêtement, parce que je crois que j'arrive à percevoir assez vite la trame qu'a voulu mettre en place l'auteur. On va dire.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu une passerelle par rapport à ce qui est marqué dans le bouquin. C'est qu'au final, c'est ce que j'en retiens de ce que tu viens de dire. Hein. Pour bien écrire, tu dois bouffer entre guillemets des bouquins, tu vas peut-être tomber dans l'écueil de faire du mimétisme et pas forcément trouver ta patte, ton style et pas forcément te démarquer et te faire un truc impactant. C'est ça ?
Ouais, c'est ça. Et le film me revient parce que c'est Alexandre Astier hein, qui explique très bien moi, ce qui m'arrive souvent dans ma vie, c'est de trouver des concepts ou des process et de me dire ah ben t'es fou en fait. Hein. Pourquoi tu fais ça comme ça ? Et après, je trouve quelqu'un qui fait ça à peu près comme ça et je me dis ah, j'ai au moins un copain, donc on est au moins deux fous, on pourra bien s'entendre. Et Alexandre Astier, lui, il explique par exemple que Les Dents de la Mer, c'est fascinant pour justement comprendre l'écriture d'un scénario. Et je suis assez d'accord parce que par exemple dans Les Dents de la Mer, ce qui est fascinant, c'est que tu sais tout le temps ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire que tu sais tout le temps qu'à partir du moment où quelqu'un va dans l'eau, il y a une petite musique qui va se lancer à un moment donné et puis il y a un requin qui va arriver. Et mine de rien, le film est absolument fascinant. Donc Steven Spielberg, hein, je pense que c'est... Il y a du génie chez Spielberg, évidemment. Donc par exemple, un film comme Les Dents de la Mer m'a appris énormément de choses. Inception aussi, parce que c'est un film assez bordélique. Et j'aime bien comment il est façonné. Et le tout premier dans ce genre-là, moi, c'est Memento. C'est un vieux film sur le héros principal, Leonard Shelby, perd la mémoire, devient amnésique. Et en fait, le film commence par la fin, pour se rembobiner vers le début. Et ça m'a appris aussi que quand tu commences un livre, généralement les gens ils commencent en disant t'as un début, t'as une fin. Moi j'ai jamais commencé un livre par le début ou par la fin, je les ai toujours commencés par le milieu par exemple. Et c'est pour ça que dans L'Entraîneur Idéal, le chapitre sur les échecs est au milieu. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'aux échecs, la stratégie la plus éloquente entre guillemets, c'est de construire un centre solide. Et bah moi, dans mes livres, je construis des milieux solides. Et à partir du moment où je considère que j'ai une base milieu solide, bah je me permets de construire le début et après la fin. Mais j'ai jamais une construction vraiment logique sur mes livres. Et je pense que c'est mieux comme ça. Et puis après, c'est ce qui me correspond aussi.
Ok, très bien. Très intéressant le travail sur la structure et on va dire les sources d'inspiration pour exceller au niveau de la plume. Au niveau du bouquin, est-ce que tu as pu échanger avec des proches de Didier Deschamps ou est-ce que tu as eu des retours après sa publication ? Est-ce qu'il est arrivé jusqu'à lui le livre ou pas de retour particulier ?
Alors, échanger avec des proches de Didier Deschamps, oui, mais pas spécialement pour l'ouvrage en fait. Je l'ai fait tout au long de ma carrière, c'est-à-dire que j'ai des... comment dire ? On va appeler ça un disque dur externe avec des bases d'interviews où en gros ce que je fais c'est que quand je faisais des interviews chez 11 Mondial, j'avais déjà en tête que j'allais écrire des livres et je stockais beaucoup, c'est-à-dire que j'ai des grosses bases d'interviews en vocal ou à l'écrit, ce fait que je vais souvent piocher là et je vais pas faire beaucoup d'entretiens pour mes livres honnêtement. Et surtout après, en plus de mes entretiens, là où je pense que je fais la différence, et encore une fois, ça n'a rien de prétentieux, c'est juste que j'ai commencé ma carrière chez Ledisport, qui est l'équivalent du McDonald's mercato footballistique, on va dire, ce qui fait que j'ai pu stocker des gigas et des gigas d'interviews, donc tout ce qui s'est dit sur Didier Deschamps depuis le début de sa carrière et sur mon ordinateur. Le seul truc que j'ai pas trouvé, c'est Pif Magazine, sa première interview au FC Nantes, et j'aurais aimé la trouver.
Collector.
Ouais, j'ai trouvé la couverture où il y a quelqu'un qui l'a posté, mais il n'y avait pas l'intégralité de l'interview. La deuxième partie de la question, c'était quoi déjà ?
Alors je disais, c'était concernant, oui, est-ce que le bouquin, une fois publié, est-ce qu'il est, il est arrivé jusqu'à lui ou à son entourage?
Alors sur ça, pour un petit aparté, ce qui m'avait surpris, c'est Leonardo qui m'avait appelé un dimanche matin où j'étais pas du tout préparé, avec son accent italo-brésilien et extrêmement charmant. On avait parlé pendant franchement une demi-heure, trois quarts d'heure de foot, du Milan AC, du football italien. C'était incroyable, super souvenir. Et là, Deschamps, je sais pas. Je sais qu'il a le livre en tout cas, parce que je l'ai envoyé. J'aimerais avoir un retour. Je vais être franc, Leonardo, je m'en fiche un petit peu de ce qu'il peut penser sur le livre, parce que de toute façon, je cherche à être objectif. Mais sur Deschamps, ouais, je vais pas m'en cacher. En fait, c'est particulier parce que on est né dans la même région, on a le même signe astrologique, et les gens qui me connaissent bien, pas nombreux en tout cas à bien me connaître, mais ils savent qu'on a des pans de caractère qui sont extrêmement similaires, et que moi, comme je te l'ai dit à un moment donné dans le podcast, j'ai un parcours d'autodidacte, pas grand-chose qui m'a permis de m'en sortir. Je me suis servi de la carrière de personnes comme Didier Deschamps pour m'en sortir, et lui plus que les autres en fait. J'aimerais avoir un retour, mais pour l'instant j'en ai pas eu et j'ai pas après j'ai pas écrit le livre pour lui plaire dans tous les cas. J'ai vraiment essayé d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire qu'il y a des phases où je suis pas d'accord avec lui ou peut-être que ça se sent pas dans le livre, mais en tout cas j'aimerais en discuter avec lui et ça serait marrant parce que je l'ai eu en interview. C'est ma première interview dans le milieu journalistique, enfin la deuxième parce que la première c'était Pascal Péri, mais pas vraiment pas un entraîneur ou un joueur de foot on va dire, mais pareil c'était un super moment en tout cas. Et je me rappellerai toujours du moment où il est entré dans la salle et qu'il m'a vu. Il a halluciné en se disant, mais ils sont aussi jeunes que ça, les journalistes. Et moi, je lui étais rentré dedans dans l'interview sur certains sujets, etc. Et je voyais qu'il appréciait, en fait. Il se disait genre, ah ouais, il est jeune, mais il a pas peur. Et j'avais passé un super moment. Ouais, c'est quelqu'un que j'aimerais bien revoir. On avait échangé, on a déjà échangé plusieurs fois par message où je lui ai envoyé des messages pour lui dire que son travail était vraiment exceptionnel, hein, je vais pas m'en cacher, hein, quand tu passes après Laurent Blanc, après Maïsna, t'as beaucoup de travail au niveau management à faire et pour moi il a exploité au maximum ses capacités de manager et les capacités de son groupe. Il manque que l'Euro 2016 encore, tu vois, si on était champion d'Europe, mais je crois que c'est une suite logique et qu'on devait perdre en finale pour être champion du monde.
Et du coup, sur le produit entre guillemets en lui-même, moi, quand j'ai vu la couverture et que je l'ai feuilleté quand je l'ai eu entre les mains, ça m'a tout de suite fait penser à un CV. Est-ce que j'ai tiré à côté ou c'était le but recherché?
Ouais, ça fera plaisir ou pas à Lisée de l'entendre. À Lisée, c'est la personne qui j'ai travaillé chez Hachette Marabout. Mais à Lisée, elle avait un gros souci, c'est quand je lui ai envoyé le manuscrit, elle m'a dit, mais Philippe, comment on le met en forme? Et en fait, elle a cherché un procédé pour que ça soit un livre, mais à la fois quelque chose dans lequel tu puisses venir piocher, que ça soit à la fois linéaire dans la lecture, si tu le veux. Mais que voilà, tu puisses aussi prendre chapitre par chapitre. Donc ouais, il y a un peu de ça. Et puis je pense qu'aussi, tu vois, les notes de bas de page font que t'as un livre dans un livre en plus, on va dire. Donc ouais, il y a quand même un truc un petit peu différent. C'est comme l'entraîneur idéal, je trouve que c'est un livre, mais c'est un truc que tu peux ouvrir à n'importe quelle page, je pense, et reprendre la lecture. Donc ouais, il y a un petit peu de ça, ouais.
Ah, très bien. En tout cas, l'objet en lui-même est très réussi.
Ouais, en vrai, bah ça va faire plaisir à Lisée, hein, parce que moi je lui avais dit à Lisée à un moment, je lui avais dit je te fais confiance, mais en vrai, je te dis ça juste pour te rassurer, hein, on verra comment ça se passe à la fin. Mais elle a super bien bossé et ça a été un des enjeux extrêmement importants pour elle. Ouais, c'était de proposer un format vraiment qui colle au texte qui avait été envoyé. Et franchement, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais mis, franchement, j'ai mis 2 mois, 2 mois et demi pour l'écrire et qu'il soit vraiment prêt, mais ça a mis plus de temps à le retoucher et à le remettre en forme après, quoi.
D'accord, ok. Ben en tout cas, beau travail d'équipe. Ça met encore plus aussi, je trouve, hein, en valeur le contenu. Donc, c'est.
Bah, ça me fait plaisir de l'entendre parce que si tu regardes bien sur tous les livres que j'ai sortis, il n'y en a aucun à part celui-là donc qui a été pardon écrit tout seul. Et tous mes livres ont été écrits en équipe et même celui sur Deschamps donc c'est pas visible sur la couverture parce qu'il n'y a que mon nom. Mais tous les projets où je passe, à chaque fois les gens pourront te dire que Moi, mon souci, c'est de faire rayonner aussi les gens avec qui je travaille. Donc, quand Alizé m'a dit « on va faire ça comme ça », moi, je lui ai dit « ok, on fait ça comme ça ». Et je lui ai fait confiance et je trouve que, comme tu dis, le produit final est plutôt beau. Et de toute façon, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question « pourquoi je fais pas de l'auto-édition ?» parce que ça pourrait rapporter plus financièrement. Moi, j'aime beaucoup les produits qui sont proposés par les éditeurs au sein desquels je suis passé. Donc, continuerai toujours à publier au sein d'un éditeur.
Du coup, dans ces 2-3 mois pour finaliser ce bouquin, est-ce que tu aurais quelques anecdotes positives à nous présenter et des grosses difficultés que tu as réussi à surmonter ?
L'anecdote, pardon, la plus sympa à raconter, c'est que l'intro, en fait, elle ne devait pas être dans le livre, en fait. D'après ce que j'ai cru comprendre des retours que j'ai eus, heureusement qu'elle est présente dans le livre, l'intro. En fait, à la fin du livre, moi j'avais un souci, c'est que je le trouvais trop court. Et je le trouve encore un petit peu trop court. Alizé aussi. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà un livre là qui est lancé, même débuté avant l'écriture de celui sur Deschamps. Et en réfléchissant, et plus j'avançais dans l'écriture, donc de celui d'échange, je me disais, mais attends, l'introduction que tu as écrit pour l'autre bouquin, ça colle 100 fois plus à celui sur Deschamps. Donc à la fin, au moment de renvoyer le manuscrit, j'envoie une phrase comme ça à Lisée en lui disant, enfin un petit peu avant, je lui envoie une phrase en lui disant, tiens, au fait, j'ai ce truc là qui traîne de côté, qu'est-ce que t'en penses? Et Lisée, elle me dit, mais il faut absolument le mettre, c'est exceptionnel, etc. Donc ça devait pas y être à la base, et ça je le dis aussi pour l'entraîneur idéal, c'est pareil, l'entraîneur idéal, il y a plein de passages qui ont été supprimés, d'autres qui devaient pas y être. Donc ça, je le donne en conseil aussi pour les gens qui veulent se lancer dans l'écriture. Le produit parfait n'existe pas, en fait. Laissez plutôt les gens vous dire aussi, vous avoir un regard sur votre travail. Parce qu'à un moment donné, quand vous écrivez depuis un certain temps, vous êtes un peu déconnecté de la réalité et vous pouvez continuer à vouloir écrire alors qu'au final, le livre, il est terminé, il est très bien comme il est. L'entraîneur idéal, il devait faire 395 pages au départ. Et au final, il en fait 256 et bien à 256 pages. Donc l'anecdote, c'est que l'introduction ne devait pas y être, et je pense que ça aurait été vraiment une grosse erreur. Pour les difficultés à surmonter, franchement, aucune en fait. À part la communication en ce moment, on va pas s'en cacher, où c'est pas. Je m'attendais à quelque chose d'un peu différent, mais bon, je pense que j'ai quand même commencé à comprendre comment fonctionnait le milieu, donc je suis pas non plus complètement surpris, mais j'ai pas rencontré de difficultés particulières, aussi parce que Alizé chez Hachette était extrêmement réactive et réceptive à mes requêtes.
Dans ton bouquin, tu dis, ou c'est une citation, je sais plus, un vrai leader cherche à développer d'autres leaders. À l'image d'anciens coachs qui ont réussi à transmettre cette on va dire cette proportion ou cette vocation à entraîner, tu penses qu'il va y avoir une filiation entre des joueurs qui ont été entraînés par Didier Deschamps et dans quelques années, on aura par exemple un, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais un Varane ou un autre joueur qui serait un bon coach?
Une bonne question. Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, 15 ans, je t'aurais répondu automatiquement oui. J'aurais peut-être même pu te citer la liste. Excellent choix de penser à Varane en premier. J'aurais peut-être pensé à Griezmann parce que je pense qu'il va, en gagnant un peu en maturité, il a un background qui peut être aussi intéressant. Mais Varane, c'est un excellent choix. En ce moment, j'ai quand même la sensation que le leadership individuel est quelque chose qui n'est pas en disparition totale, mais qui s'organise beaucoup plus autour d'un leadership collectif parce qu'on a du mal à trouver des vrais capitaines et des vrais leaders. Ça, c'est pas forcément moi qui le dis. Mourinho, on en a beaucoup parlé de la différence de génération entre ce qu'il avait à Chelsea et les joueurs qu'il peut rencontrer aujourd'hui. Deschamps en a parlé aussi. Je pense que le fait qu'il ait du mal à trouver des capitaines et qu'il organise aussi ses sélections avec plusieurs capitaines justifie ce que je suis en train de te dire. Donc oui, je pense que ça va arriver. Mais ça sera un management qui sera quand même assez différent et moins centré sur la personnalité et sur le leadership individuel du coach. On est sur une génération qui a aussi envie de, comment dire, d'organiser, à mon sens, les choses de façon plus collective. On m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet qui s'appelle « La mort du leadership ». Je n'ai pas accepté encore pour l'instant, parce qu'il faut que je me penche beaucoup plus sur le sujet au niveau sociologique, au niveau philosophique, pour accepter. On va dire qu'il y a moins de vrais grands leaders aujourd'hui. Ça, tu peux le retrouver dans absolument tous les pans de la société, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des grands groupes d'entreprises. Si tu compares les leaders politiques d'aujourd'hui à ceux d'il y a 20 ou 30 ans, tu peux finir traumatisé, mais très clairement, si tu écoutes les débats politiques d'aujourd'hui et ceux d'il y a 20 ou 30 ans, tu peux presque avoir envie de repartir en arrière. Mine de rien, oui, je pense qu'il y aura des joueurs qui vont émerger, comme c'est le cas pour les joueurs. Moi, ce que j'attendais beaucoup, c'était les joueurs qui ont croisé Guardiola et Mourinho. On a déjà bien Alonso en ce moment, par exemple. Donc oui, il y aura forcément une affiliation, comme ça a été le cas avec Jacquet. Mais je pense que ça sera beaucoup moins prononcé que par le passé. On aura aussi moins de joueurs qui, à mon avis, auront envie de devenir coach, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont compris que c'était un métier extrêmement énergivore et destructeur sur la durée.
On souligne à juste titre les qualités de management de Didier Deschamps. Pour moi, c'est l'un des managers toutes disciplines confondues au niveau du sport français qui excelle dans cette discipline. Il y a un adage qui dit au football, le plus dur, c'est de jouer simple. Est-ce que la recette miracle pour être un bon manager, que ce soit au niveau sportif et au niveau entrepreneurial, ça serait pas justement de faire tout simplement preuve de bon sens et de ne pas chercher à copier un style existant?
Alors, pour l'honnêteté intellectuelle du podcast, je tiens à dire qu'on a recommencé 5 fois la question et que du coup, ça me donne envie de te donner une autre réponse. Il y a un excellent livre qui s'appelle, en fait, je crois que c'est L'escroquerie du management vers le retour au bon sens. Et en fait, tout est expliqué à l'intérieur en disant que le gros problème, je simplifie, hein, parce que c'est quand même un livre très long, c'est un livre de 110 pages, je crois, quelque chose comme ça. Bon, en fait, ce qui est expliqué, c'est que justement, il faut arrêter de vouloir complexifier les choses en permanence et revenir justement à une notion de bon sens et une notion de simplicité. Maintenant, sur management sportif, là où il va être un peu différent du management en entreprise, c'est qu'il y a la notion du jeu. Effectivement, à part Pep Guardiola, qui entre guillemets déjà est en club, ce qui est quand même une notion un petit peu différente, il n'y a pas tout le monde qui a ce background philosophique, qui a eu la chance de croiser Johan Cruyff, d'être aussi doué intellectuellement. Guardiola, c'est un prodige comme on en a rarement croisé dans l'histoire du foot. Pour moi, de toute façon, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du foot. Donc, sous-entendre, parce que c'est pas la question que tu me poses, mais c'est la question que certains amateurs de foot poseraient, parce qu'en fait, ils sont matrixé par une philosophie de jeu, c'est pourquoi Didier Deschamps ne joue pas comme Pep Guardiola et comme Johan Cruyff. Bah, en fait, moi, ce que j'aime à dire, c'est que je trouve que la question, elle est bizarre, parce qu'en fait, quand tu aimes quelque chose, c'est-à-dire le cinéma, la musique ou l'art, généralement, tu vas apprécier plusieurs courants ou plusieurs mouvements différents. Pourquoi ça serait différent dans le football? Ça, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais compris. Et le gros problème de ça, c'est que tous les philosophes apôtres de Guardiola, s'ils avaient une discussion avec Monsieur Guardiola en personne, lui-même leur expliquerait qu'il faut des Didier Deschamps et que lui-même a beaucoup de respect pour ce que fait Didier Deschamps. Donc la mentalité qui tend à dire que Deschamps n'est pas un bon entraîneur parce qu'il n'entraîne pas de la façon dont a joué le FC Barcelone pendant X années, etc., moi je trouve ça un pathétique. Deux, à l'encontre totale d'une mentalité sportive. Et trois, malheureusement, c'est que depuis le temps que j'ai lu les arguments avancés sur ce sujet, je trouve que ça tourne en rond et qu'en fait, ça n'a pas une grande finalité. Donc moi, je préfère des entraîneurs comme Deschamps qui en fait sont revenus à des choses extrêmement simples, c'est vrai, mais qui, mine de rien, qu'est-ce que le football si ce n'est la recherche de procurer des émotions? Quand on prend l'Euro 2016, quand on prend la Coupe du Monde 2014 avec les larmes, d'Antoine Griezmann à la sortie de France-Allemagne, on a tous eu des émotions. C'est le début de l'épopée, on va dire, de Deschamps chez les Bleus. L'Euro 2016, on perd en finale. Bien sûr qu'on aurait pu gagner. On prend des émotions. On perd, c'est comme ça. On apprend à perdre, c'est l'histoire. On gagne la Coupe du Monde derrière et on fait finale encore de la Coupe du Monde avec une Ligue des Nations en passant. C'est quoi les émotions du coup? Moi, j'ai vu tout le monde dans la rue. J'ai vu des gens qui connaissaient rien au football être heureux parce qu'on faisait un beau parcours, etc. Donc à un moment donné, le procès d'intention qui est fait à Didier Deschamps sur sa philosophie de jeu, je ne le comprends pas. Et moi, je trouve qu'il a en fait excellé comme pas possible durant son passage en équipe de France. Et que si on avait voulu prendre quelqu'un qui complexifie les choses et qui cherche à bien jouer, bah, il fallait prendre Laurent Blanc. Et bah mince, on l'a pris Laurent Blanc et on a vu ce que ça a fait. Donc oui, il faut revenir à des choses simples. En ce moment, j'étudie beaucoup le MMA. Je pense c'est en train de passer assez loin devant le foot et la Formule 1 comme étant mon sport préféré. Et je m'intéresse beaucoup au parcours de Daniel Waring, qui est l'entraîneur de Benoît Saint-Denis. Et lui, il le dit très clairement. Aujourd'hui, dans le MMA, il y a beaucoup d'entraîneurs qui, en fait, sont des jeunes entraîneurs et qui veulent tout le temps révolutionner, complexifier les choses. Ils se perdent eux-mêmes. Si le sport était aussi compliqué que ça, entre guillemets, je sais pas. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne parce que je le vois de plus en plus. J'ai eu une discussion l'année dernière avec un préparateur mental dans le domaine de l'e-sport. Et on parle et la première question qu'il me pose, c'est quoi tes cycles? Et en fait, t'as pas envie d'apprendre à me connaître. C'est la première fois qu'on se voit. Tu peux pas ne pas parler de cycles, de data, de ce genre de choses. Apprendre à comprendre l'humain avant de me parler de tous les processus, etc. Et malheureusement, bah, à partir du moment où le sport devient un business intégral, de toute façon, t'as plein d'entreprises qui vont se créer en te disant ah, nous, on améliore la performance, on a des solutions miracles, etc. Donc ça fait croire en fait que le sport est un. Bien sûr que c'est un éternel recommencement, une éternelle remise en question, mais à un moment donné, il ne faut pas chercher à pousser trop loin les choses. Regarde, je vais te donner un exemple de quelqu'un qui cherche à trop pousser les choses loin possible en ce moment, c'est Arsène Wenger, bien aidé par Gianluigi Buffon, avec plein d'idées à la con pour modifier le football. Mais on n'a pas besoin de ça, les gars. Restez sur des choses simples, s'il vous plaît.
Ouais, non, c'est les travers de l'intellectualisation du truc, quoi.
Ouais, je vais te donner un autre exemple, c'est maladif, c'est vraiment c'est maladif, c'est les gens qui en fait travaillent dans des grandes institutions et qui en fait ont des métiers où ils sont pas très actifs dans l'innovation. Et donc ils ont l'impression qu'ils doivent justifier une forme d'innovation, de modifier des procédures. Tu le vois tout le temps à la SNCF. À la SNCF, tous les ans, ils te sortent une nouvelle idée, comme si c'était une idée de génie, alors qu'en fait non, ça ne l'est pas. Et en fait, bah, c'est quelqu'un qui doit justifier son salaire et qui doit justifier le fait de voir révolutionner pardon, les choses. Et en fait, la meilleure révolution que tu peux faire des fois, bah, c'est de ne pas en faire, en fait. De juste améliorer les quelques points du management qui était avant toi. Et ça, c'est une grosse erreur de beaucoup de jeunes managers qui arrivent en se disant « j'ai ma méthode, je change tout, etc. » Ça, c'est une grosse erreur.
Est-ce que ce ne serait pas de l'ego mal placé de « je dois laisser une marque de mon passage. »
Si, ça peut être ça. Bien sûr que si, bien sûr que si. C'est là où moi je trouve qu'un entraîneur comme Ancelotti, pour moi le meilleur entraîneur, de toute façon, je t'ai dit que c'est Guardiola, mais le meilleur manager pour moi c'est Ancelotti, parce que justement lui il est très bon pour ça. Alors il a eu un peu plus de mal à Munich, mais je crois que Munich c'est un cadre quand même assez spécial. Mais lui il est très bon justement pour arriver, se mettre dans un moule et améliorer les quelques points où en fait il y avait des carences, on va dire. Mais bien sûr que si, c'est une question d'ego aussi. Si, en fait, tu te dis, moi j'arrive et quand je modifie tout, c'est mieux que mon prédécesseur. Mais déjà, t'as rien compris parce que faire mieux que ton prédécesseur, ok. Mais en fait, la vérité, c'est de faire progresser les gens autour de toi. Et peut-être que justement, ton prédécesseur, il avait commencé ce processus de progression et que toi, bah, t'as juste à l'améliorer. C'est là où, en fait, si tu regardes bien, moi j'aime beaucoup, ça me fait rire ça généralement, c'est quand on entend dire les entraîneurs après Mourinho, ils arrivent à pacifier le vestiaire, ça marche très vite tout de suite, etc. Oui, mais c'est parce que justement, ils ont compris qu'en fait, en arrivant, Mourinho avait déjà tout fait, c'est-à-dire au niveau du management, au niveau des entraînements, au niveau de la structure du club, et que eux, en fait, ils ont juste à arriver à dire, bon, moi les gars, je vais pas vous insulter, je vais pas vous détruire toute la journée en conférence de presse, je vais être gentil avec vous, etc., etc., pour inverser en fait cette tendance de père fouettard en mec un peu plus sympa, et ça passe tout de suite. Mais si t'arrives après Mourinho et que tu veux tout révolutionner, c'est que t'as rien compris au management, et tu le vois dans l'histoire du football, t'as beaucoup d'entraîneurs qui passent après d'autres entraîneurs, pardon, et qui font juste de l'ajustement. C'est une très très grosse qualité que d'être un bon ajusteur.
Non, très intéressant. Et du coup, pour rebondir un peu sur ton œuvre globale et ce que tu as pu étudier, Aujourd'hui, malheureusement, c'est la. Enfin, après, je suis peut-être un peu déconnecté de ça, mais j'ai l'impression que à tous les séminaires, justement, dans le monde de l'entreprise, on fait venir un ancien manager sportif pour faire un peu de rapporter un peu de fraîcheur et de dire, allez, on y va, on met de l'entrain et tout ça. Mais est-ce qu'on peut pas juste s'appuyer simplement sur leur qualité et tous les soft skills qu'ils ont emmagasinés pendant leur aventure professionnelle et leur donner les clés de vraies missions de management plutôt que de les faire venir un peu comme des mascottes à un séminaire de fin d'année?
Bah, c'est une très bonne question parce que tu vois, nous, moi j'évolue aussi dans le milieu de l'e-sport, donc les jeux vidéo joués sous format compétition. Et en fait, c'est par exemple Vitality, donc c'est la deux ou première équipe française, on va dire, s'il y a un débat, c'est avec la Garmin Corp. Mais eux, par exemple, quand ils lancent une équipe sur Counter-Strike, peu de temps après, ils vont chercher un manager qui s'appelle Mathieu Péché, donc qui est médaillé olympique de canoë-kayak. Le mec, il a un palmarès incroyable, vraiment. Hein. Je sais pas si tu écouteras le podcast, Mathieu, mais tu as un palmarès incroyable en plus d'être un gars bien. Et en fait, ça a un impact. Ça a un impact parce que lui, il a un process de champion, une façon de faire. Et bien sûr que c'est important. Moi, la majeure partie de ma famille vient de l'armée, du milieu du sport, on va dire. Et combien de fois, mon père, par exemple, a été donné des team building ou des cours de management en entreprise parce que justement, les managers, ils avaient été mal formés, entre guillemets. Moi, je le vois aujourd'hui. Je te l'ai pas dit dans ma présentation, mais aujourd'hui, je suis plutôt professeur que écrivain. Je donne des cours dans quasiment tous les groupes écoles privées sur le management, et je vois que pour la plupart des élèves, il y a des choses qu'ils découvrent aussi grâce au sport. Donc, le problème, en fait, c'est que en France, je pense que ça sera pas une surprise pour la plupart des gens de l'entendre, c'est que le sport, en fait, on n'est pas un pays de sport. On est un pays de pratiquants de sport, c'est-à-dire qu'on fait du sport détente, du sport fitness, etc. Mais on n'a pas une vraie culture sportive. La preuve étant, c'est que, regarde, la liste, pardon, des ministres sport qui se sont enchaînés, moi je trouve ça assez pathétique. Qu'un mec comme Platini ait jamais été ministre en France, ça c'est surprenant. Il y a d'autres grandes figures du sport qui ont eu des choses à dire. Non, en France, pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas un pays qui s'est très bien utiliser le sport. Alors là, je vais dire un truc qui va peut-être choquer un peu, mais l'idée qui a été faite par le gouvernement Macron de rapprocher le ministère de l'Éducation nationale et celui du sport, ça, je trouve ça intéressant. Vraiment, ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Maintenant que ça soit centralisé sur une personne avec un emploi du temps et la personne que c'est aussi, je suis pas sûr que ça va avoir des effets extrêmement positifs. Mais par contre, que ça soit vraiment le même ministère. Ouais, j'aime bien l'idée, même si dans les faits, c'est sûr que ça doit être très compliqué à mettre en place au quotidien pour la personne qui s'occupe de ça. Mais non, hein, de toute façon, moi je te dis, hein, j'ai eu les plus grands entraîneurs français. Il n'y en a pas un qui m'a dit que le sport à l'école, c'était quelque chose qui était bien fait. Et je pense que tout part de là. Si tu veux une anecdote, tiens, moi je vais te raconter une anecdote qui est assez sympa. Quand j'étais au collège à Raymond Poincaré à Versailles. Mon frère était en troisième et moi j'étais en sixième et ils avaient l'échange, tu sais, l'échange culturel avec des Allemands. Et en fait, quand mon frère est parti en Allemagne, moi j'ai pas vu. Mais quand les Allemands sont venus, à un moment donné, il y avait un match de foot qui s'organisait et j'étais bon au foot. J'ai été joué avec les troisièmes pour affronter les Allemands. Et nous, dans ma tête, moi j'étais là, mais on va les massacrer en fait. Nous, on vient de ce qu'on appelle le street foot. On fait que dribbler sur du bitume. On va bien s'en sortir. Et en fait, nous, on n'a pas fait d'entraînement, on ne s'est pas organisé, etc. Et les Allemands, ils ont fait si tu veux, des tours de terrain, ils se sont entraînés entre eux, il y avait un capitaine d'équipe qui plaçait les joueurs, etc. Il y avait déjà une dynamique d'organisation que...
Structure, ouais.
Ouais, et c'est exactement, une structure que nous, on n'avait pas. Ils nous ont marché dessus, hein. Et pourtant, c'était que des Thomas Müller, que des mecs que tu voyais où tu disais, non, mais lui, il doit pas être trop fort au foot. Bah en vrai, ils n'étaient pas très forts, mais ils nous ont battus. Et voilà, parce que l'Allemagne a un système éducatif qui est beaucoup plus tourné vers le sport, la musique et les arts, et qui fait que bah, je pense qu'ils forment des humains peut-être un peu plus complets que nous, entre guillemets.
Et justement, petite digression aussi qui est intéressante. On parle de différentes inspirations autres que le sport. Tu regardes un Guardiola est amateur de culture devant l'éternel. Un Ancelotti, lui, ça va être le côté humain, peut-être son côté peut-être lié à ses racines, et le côté, on va dire, terre-agriculture, où on est vraiment attaché au concret et pas de blabla. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans le process de formation des entraîneurs de demain, faire des modules sur des choses qui n'ont pas forcément pas que du technico-tactique, management, mais voire beaucoup plus large que rester sur le rectangle vert, entre guillemets, quoi.
Moi, je vais te dire, le premier step que je devais faire dans le sport, en fait, avant de rentrer chez 11 Mondial, je commence une formation de préparateur mental avec Denis Troche. Donc Denis Troche, qui est ancien entraîneur adjoint du PSG à l'époque d'Arthur Georges. Et en fait, j'arrive dans une formation où je me dis, ouais, c'est ça que si moi je devais mettre en place une formation pour des managers, c'est ce que je ferais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as sélectionné les profils des inscrits par promotion pour qu'il y ait une diversité qui soit absolument exceptionnelle. Je pense que d'ailleurs, j'avais jamais fait le rapprochement, c'est peut-être un peu ça qui me donne envie d'écrire l'entraîneur idéal aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des managers, mais ça s'appelle pas comme ça dans leur métier, un manager d'un théâtre, un manager d'une boulangerie, un manager sportif bien évidemment, un manager dans une banque, un manager dans le 440, etc. Et en fait, l'échange... parfois même non officiel ou qui ne faisait pas partie de la formation et qui se mettait en place entre midi et deux ou dans les moments plus informels, on va dire, permettait d'avoir un échange de compétences extrêmement intéressant. Et au-delà de l'échange de compétences, qui permettait de briser l'ego de certains managers qui ne devraient pas avoir cet ego. Ça, je te le dis parce que je l'ai vu notamment dans le milieu militaire, où en fait, à partir du moment où tu deviens manager dans l'armée à un très haut niveau et que tu gères des hommes qui font la guerre, tu considères que ton management est plus important, entre guillemets, que celui qui gère un grand restaurant. Alors non, c'est pas vrai, c'est juste un management qui est différent, mais gérer un grand restaurant dans un service 4 étoiles, par exemple, où tu as une pression démentielle, pour moi, c'est quasiment le plus intéressant à étudier. Le management militaire, il est intéressant à étudier parce que tu as la vie de certaines personnes entre tes mains. Et ça implique un sens et un degré de rapport aux responsabilités qui est terrible. Mais aujourd'hui, si tu veux être entraîneur de foot, si tu veux évoluer tout simplement dans le management, tu dois étudier absolument tous les secteurs possibles. Je pense qu'il y a des managers qui gèrent 5-6 personnes qui m'ont appris beaucoup plus de choses que des entraîneurs de Ligue 1 ou de sport. Ça, très clairement, ouais. Donc il faut de l'ouverture sur tout. Et de toute façon, je te dis, vendredi, j'ai un cours donc sur le leadership dans une école à Lyon. Le premier slide de la présentation que je leur fais, c'est donc Manuel Sergio, mentor de José Mourinho, qui dit que le plus important pour un manager, c'est la culture. Et le deuxième slide, c'est Carlos Tabarez, l'ancien manager de Peugeot, parce que je crois qu'il a quitté Peugeot, qui dit que le plus important, c'est de se taire. C'est de laisser parler les gens pendant les réunions. Après, savoir trier les informations. Mais les managers qui commencent les réunions en donnant les directives, il faut faire ci, ça, 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 et ça comme ça, pardon, en fait, ils amenuisent le potentiel créatif de leur équipe, en plus de leur faire comprendre un truc, c'est que, entre guillemets, leur idée ne pèse pas très cher. Donc, il faut étudier tous les milieux possibles pour comprendre ce qu'est le management. Et les parcours individuels aussi. C'est-à-dire les parcours de vie, de comprendre pourquoi tel ou tel manager réagit parfois à telle ou telle situation.
Très intéressant. Et du coup, on va appeler un peu plus loin. J'avais une question qui était concernant le manque de transversalité qu'on peut avoir au niveau du sport. Je m'explique. En France, on a la chance d'avoir une discipline qui est pas très entre guillemets mise en valeur, sauf quand il y a des compétitions internationales, c'est le handball et qui performe à chaque fois. Pourquoi on n'arrive pas à benchmarker ce qui fonctionne et la recette magique de cette du handball français pour les Allemands en 2006 pour la Coupe du Monde, ils ont pas hésité à benchmarker un peu partout dans le monde pour remettre à plat tout leur système. Pourquoi on le fait pas en France ?
Alors, je vais te donner la réponse que Claude Fauquet, donc ancien DTN, directeur national de la natation française à l'époque, Laure Manaudou, m'a donné. C'est que lui, en fait, ce qu'il voulait faire, c'était un collège de tous les entraîneurs français, tous les grands entraîneurs français. Il voulait le faire avec Onesta à l'époque, au niveau institutionnel, hein, donc par l'État. Et le problème étant, c'est que avec le changement de ministre assez récurrent, et que ça soit changement de ministre, changement de président de fédération, etc., c'est très difficile de mettre en place ce genre de procédé parce que les institutions changent très souvent. Le deuxième point, c'est qu'en France, on n'a pas une ouverture d'échange entre les entraîneurs qui est aussi prononcée qu'à l'étranger, même si ça tend à évoluer quand même de plus en plus. Le problème pour le handball, j'ai envie de dire, je crois qu'à partir du moment où ces sports en fait, n'ont des créneaux d'exposition que lors des compétitions internationales, si tu sors dans la rue et que tu demandes à quelqu'un qui est Olivier Crumbles, tu n'as quasiment aucune chance d'avoir une réponse favorable en fait. Onesta, peut-être un peu plus. Mais ce n'est pas des personnages qui sont aussi connus que ça. Parce que sinon, déjà, moi je vais te dire un truc, quand j'ai écrit Les plus grands managers du sport se confient, j'étais surpris de voir que ce livre n'avait pas été écrit avant en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un livre d'entretien avec les plus grands entraîneurs français, ou au moins quelque chose qui retrace leur parcours. Donc on a un manque au niveau philosophique, sur les démarches comme tu le dis, parce que ça serait une excellente démarche, et puis après on a un manque aussi au niveau culturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je trouve, en tout cas peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas la sensation, il n'y a pas assez de choses qui mettent en avant le parcours de ces entraîneurs. J'imagine qu'il y a une bio d'Olivier Crumbles, mais... je suis assez surpris en fait que ces mecs-là effectivement ne fassent pas plus le tour des médias et surtout qu'ils ne fassent pas plus le tour des médias hors période compétition internationale. C'est-à-dire que moi je trouve ça super intéressant par exemple que pendant la Coupe du Monde de football on prenne Olivier Crumbles comme consultant pour nous donner son avis sur la gestion de la compétition par Didier Deschamps. C'est des choses qui m'intéresseraient. Mais est-ce que ça intéresse vraiment le grand public? Aussi, c'est que moi je suis passé dans des rédactions et j'ai fait des papiers très philosophiques, très anglais, qui prennent du temps à écrire. Et malheureusement, les chiffres de vues n'étaient pas très élevés et c'est plus le mercato qui marchait. Donc, ce que tu dis là, il faudrait que ça se mette en place. Ça existe après, bien évidemment, de façon informelle. Par exemple, moi, je vois en ce moment Clément Marcoux, qui est l'entraîneur de Abdoul dans le MMA. Donc, Abdoul, c'est un énorme prospect français, sans doute le meilleur au niveau de la lutte et du sol. Et Clément Marcoux, il échange énormément avec d'autres entraîneurs. Mais voilà, il le fait sur sa chaîne YouTube. Il faut avoir envie de le trouver pour avoir accès à ce contenu-là, quoi. Je sais pas quoi répondre. Moi, j'aimerais avoir une chaîne YouTube, tu vois, où on voit de l'échange. En ce moment, je vois Tony Parker, par exemple, qu'il fait avec Zidane sur sa carrière, où ils parlent chacun de leur carrière respective. Je trouve ça exceptionnel. C'est sûr qu'un échange entre Patrick Mouratoglou, Didier Deschamps, Olivier Crumbles, Fabien Galthié, ouais, ça pourrait donner quelque chose d'extrêmement intéressant.
Eh ben, il faut que tu fasses un copyright là, parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent, ça peut être aussi dans des émissions de sport qui ont une plus grande exposition.
Bien sûr.
Il faudrait convier davantage ces grands monsieur et ces grandes dames du sport français pour.
Ouais, après moi. Ça me fait penser à... Je vais te donner un exemple, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup avec Thibaut Leplat. Je me rappelle qu'à un moment donné, je lui avais dit « Mais Thibaut, il faut que les reportages Guardiola-Mourinho, tu peux aller en faire sur Arte. Hein. Franchement, il y a la place. » Et lui, il me disait franchement non, en fait. Tu vois, ils avaient à un moment donné, ils avaient une rubrique qui s'appelle « Duel », exceptionnel, où vraiment, il y avait quoi ils ont fait Kasparov contre Karpov, Jobs contre Gates. Je crois qu'ils ont fait Chirac-Mitterrand. Ouais, c'était ça au niveau politique, tu vois. Et je me disais, mais c'est le moment où il faut qu'il fasse Mourinho-Guardiola. Et j'avais dit à Thibaut, franchement, tu devrais les contacter parce que toi, tu as écrit plusieurs livres sur le sujet, tu as une énorme expérience. Et il me disait, ça sert à rien. Et je pense qu'il a raison, en fait. Si demain, je vais voir un grand média et que je leur propose un reportage sur ce genre de contenu, c'est compliqué, franchement. Donc, après, je pense que ça évolue quand même en ce moment parce que on voit quand même de plus en plus de sports, pardon, de figures fortes dans le MMA, par exemple, qui sont en train d'exploser et qui deviennent des figures nationales vraiment très rapidement, qui fait que le sport est quand même en train de prendre une place différente en France. Il y a un autre indicateur qui tend à le dire, c'est si tu vois alors après, il faut dissocier culture, sport et sport pratique, mais tu vois qu'il y a quand même beaucoup d'ouverture de salles de sport, de fréquentation de nouveaux sports, comme le paddle, par exemple, qui fait que, à mon sens, il y a une vraie évolution. Moi, je le vois aussi sur le nombre d'écoles qui me contactent pour justement le directeur de l'école avec laquelle je vais bosser à Lyon. Lui, il m'a dit très clairement, je veux que des trucs nouveaux qui sont en rapport avec les livres que t'écris, parce que nous, je pense qu'on a proposé des choses qui étaient un peu à l'ancienne pendant un temps et il faut un peu d'innovation.
Se réinventer.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a un truc en ce moment. Il se passe quelque chose au niveau de l'appréciation de ce qu'est le sport. J'en suis convaincu. Et je pense que c'est grâce aussi à des figures émergentes comme Mbappé. La première, ça a été Griezmann. Où Mbappé, il parle beaucoup sur l'ego, tu vois. Il s'exprime beaucoup sur des sujets philosophiques par rapport au sport. Et pour le coup, il le fait bien, en plus, je trouve. Et ça permet d'éduquer aussi les gens. Parce que tu vois, nous, on a eu des sportifs où, par exemple, Thierry Henry, il parlait pas. Franck Ribéry, il était moqué. Donc, désolé pour lui, il pouvait pas trop parler. Zidane, c'était un taiseux. Deschamps, il faisait de la communication très simpliste. Donc, on n'avait pas de vraies figures sportives émergentes qui avaient envie de prendre la parole et de monopoliser un peu les médias. Mbappé, lui, il assume complètement ce truc-là. Il le dit lui-même. J'ai une voix qui porte, j'ai envie de la faire entendre. Bah, moi, je l'encourage à le faire parce que je trouve qu'il dit des choses assez intelligentes et ça permet justement aussi d'avoir cette élévation de la culture sport, parce qu'on voit que les sportifs, bah ouais, ils peuvent être intelligents, hein, les gars. C'est pas parce que tu tapes dans un ballon que t'es forcément cassos, quoi.
C'est clair, non, mais ça reste des femmes et des hommes avant tout, d'être des sportifs de haut niveau. Donc leur parole, elle n'est pas, entre guillemets, elle vaut pas moins cher, entre guillemets, elle n'a pas forcément moins de valeur que.
Exactement.
Et c'est pas que des abrutis qui tapent dans un ballon ou qui courent dans le vide, quoi.
Vu qu'on a exposé beaucoup moins de sportifs que dans d'autres pays, ou qu'on a une culture un peu différente par rapport à ça, bah, le fait de ne pas en avoir exposé et de jamais les entendre, bah, de toute façon, tu te dis. On s'en soucie pas. Mais quand tu les entends parler, moi quand je lis Mbappé, bah, je suis impressionné, hein, franchement. Je me dis c'est peut-être too much, tu vois. Genre les jeunes aujourd'hui, ils perdent trop vite ce qu'on va appeler la candeur, une forme de naïveté. Mais quelque part aussi, c'est peut-être mieux, parce que quand tu vois la difficulté à évoluer dans cette société, si j'avais un gamin et qu'il prenait Mbappé comme modèle. Et qui prenait Benoît Saint-Denis dans le MMA, bah, je serais confiant. Hein. Tu vois, je me dis, ouais, c'est bien.
Il y a des bases solides, des belles fondations.
Voilà, c'est ça.
Très bien. Et du coup, on va bientôt arriver à la fin de l'entretien. Il nous reste que quelques petites questions. Toi, au niveau de l'actualité, j'ai vu passer quelques tweets où il y a un de mes livres préférés, tout sport confondu, qui va avoir un tome 2, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et sur tes productions et où on peut te retrouver?
Alors, bah, comme j'aime à dire, je ne prévois pas grand-chose en fait, généralement. C'est-à-dire que par exemple, mon deuxième livre, celui sur les jeux vidéo, à la fin du premier, j'avais dit à Benoît Bontou chez Hachette, je viens de subir, là, je vais partir en vacances. Et il m'envoie un message et il me dit non, tu pars pas en vacances. Tu vas faire un livre sur les jeux vidéo. Et il a mis le paquet, et surtout Benoît est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc au niveau de la passion, tu sens que tu sais pourquoi il est là, entre guillemets. Donc, j'ai accepté. Et là, en fait, c'est vrai que depuis un certain temps, j'aimerais bien arriver à écrire quelque chose qui reprenne un peu la base de l'entraîneur idéal, donc côté un peu voyage, un peu mystique, avec des références qui viennent d'un peu partout. Et je t'avoue que j'avais pas la trame, comme je te disais. Alors je voyais pas où je pouvais écrire en rapport avec ça. Et en fait, à force de m'intéresser au MMA, hein, donc là, je fais que ça. Hein, très clairement, ça fait 3 ans que j'ai étudié absolument le parcours de tous les athlètes qui m'intéressent dans ce sport. Bah, je retrouve la possibilité de faire quelque chose d'assez similaire à l'entraîneur idéal, mais pas sur le métier d'entraîneur et plus sur le parcours des sportifs et ce qui permet à un sportif, en fait, de devenir la meilleure version de lui-même. Et pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce qu'en fait, je suis un peu gavé de voir les discours tendent à dire, en fait, tu sais, le jour J, tu dois être à 100%, ta préparation, elle doit être parfaite, ton alimentation, elle doit être parfaite, tu dois être parfait partout. En fait, t'es un robot, tu vis jamais, tu prends aucun kiff, et à la fin, on te demande d'être champion du monde. Et tu dois pas souffrir, ça doit être très simple, entraînement bisounours, etc. Il faut que tu pas très bien. En fait, c'est absolument pas ça, hein, la vie d'un sportif. Et je pense que c'est intéressant justement de mettre ça à nu pour le grand public. Je vois aussi en ce moment que Thierry Henry parle beaucoup sur les problèmes mentaux qu'il a pu rencontrer durant sa carrière, et les gens en fait s'émerveillent en disant waouh, un sportif peut avoir des douleurs et une vie compliquée. Oui, oui, c'est le cas. Le fait de gagner beaucoup d'argent n'est pas un gage de bonne santé mentale. Et la preuve étant, c'est que la plupart des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent tombent beaucoup plus vite dans la drogue, dans la dépression, ce genre de choses. Entre guillemets, le confort n'est pas un gage de bien-être. Et quand tu étudies le parcours de certains sportifs en particulier, ouais, tu te rends compte à quel point c'est violent. Michael Jordan, par exemple, c'est un mec qui était complètement torturé de A jusqu'à Z. John Jones dans le MMA, c'est une rare violence. Je parle pas de Diego Maradona dans le monde du football. Donc tu te rends compte qu'être sportif, c'est quand même... Il y a une part de torture, et encore plus dans le MMA, parce que quand tu vas te mettre dans un octogone pour te faire fracasser, il faut avoir quelque chose en plus, ou peut-être en moins, je sais pas. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, bien au contraire. Donc l'actualité, ça va être sans doute ouais l'écriture d'un livre, mais je sais pas quand il sortira. Et puis là surtout, c'est j'ai beaucoup de cours à donner sur les sujets du leadership et du management sportif. Donc là, je vais surtout me concentrer sur ça, sur l'année là qui arrive.
Très bien, bon, on va suivre ça de près, puis on espère t'interroger à nouveau pour un nouveau livre de foot. Et je fais une petite digression sur ta réponse. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu pas choqué, c'est peut-être fort, mais c'est pourquoi Thierry Henry ne s'est pas exprimé en français, et pourquoi un média n'est pas allé le chercher sur ce...
Alors moi, j'aime beaucoup cette question, je vais te le dire tout de suite. J'aimerais avec lui, et je sais que c'est des choses que je ferais, parce qu'après j'ai pas trop de mal à atteindre les gens et à les convaincre d'avoir des discussions avec eux. Moi, j'ai eu le même père que Thierry Henry, en fait, mais vraiment, hein. Et c'est quelque chose d'assez similaire, donc j'ai tout de suite compris le cheminement qui fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est quasiment dans l'histoire du sport un des mecs que j'aime le plus, Henry. L'écouter parler, le voir parler, il y a un documentaire qui est exceptionnel où il va parler à des jeunes à l'AS Monaco. C'est le mec à qui, moi, je suis vraiment je fais très attention, je pourrais te sortir des phrases du genre je laisserai pas mes enfants avec n'importe qui, etc. Les laisser avec Thierry Henry, mais sans aucun souci, quoi. Donc, pourquoi, en fait, il veut pas s'exprimer? C'est comme Ribéry. C'est que, en fait, ces mecs-là, ils sont un peu, déjà, ils sont sensibles. Comparé à ce qu'on pourrait croire, il y a une énorme sensibilité chez ces mecs-là, ça se voit directement chez Thierry Henry, et surtout c'est qu'ils se disent qu'en fait, les gens en face d'eux ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils vont expliquer, parce que en fait, normalement, il n'a pas besoin de l'expliquer. Il y a une position en fait qui est trop en attente de jugement en France, plutôt que de compréhension, qui fait que la plupart des personnes qui pourraient livrer des choses se ferment assez vite, et je pense qu'on l'a bien vu avec Bielsa. Alors lui, c'est juste qu'il est très fort mentalement et il arrive à résister et à faire des conférences de presse d'un certain temps. Mais la vérité, c'est que Bielsa, il a compris très vite que peu importe ce qu'il disait, les gens qui étaient présents en face de lui en conférence de presse, il y en avait peut-être 20% qui s'intéressaient, et le reste, ils étaient là soit pour se moquer, soit pour faire des reportages sur Quotidien. Donc à un moment donné, après, quand tu as des choses à dire et que tu sens qu'en face, les gens sont pas spécialement réceptifs, bah, tu te fermes, malheureusement, et c'est extrêmement dommage, parce que je pense que tu vois un mec comme Ribéry aussi, putain, mais la carrière de Ribéry, il aurait énormément à dire, et c'est pas anodin que quand tu écoutes une interview de Thierry Henry, en anglais ou en français, c'est pas la même chose, et surtout quand t'entends Thierry Henry avec un mec qui connaît, comme Dacourt par exemple, bah, c'est pas la même chose. Donc, je pense qu'on n'a pas assez bien traité nos sportifs, et que faut pas leur en vouloir de nous le rendre à la façon dont ils nous le rendent, en fait.
Ah, c'est clair que la façon dont on les traite, entre guillemets, ben on a le résultat in fine derrière, quoi.
C'est... Ah, bien sûr, la main.
Oui, quand ils tombent dessus en Irlande, là. Ouais,
bien sûr, c'est tout le. Alors que après, il y a des gens qui ont des valeurs en disant moi j'aime pas tricher, etc. Pourquoi pas? Moi ça je peux comprendre. Chacun ces trucs-là. Mais la récupération politique qui a été faite. La façon de s'exprimer, pour Ribéry d'avoir dit que c'était des racailles à l'époque, que Johan Gourcuff c'était petit gentil et que Ribéry était une grande racaille. Alors peut-être que dans les faits il y a un peu de ça,
Mais t'as pas à venir faire de la récupération par rapport à ça, parce que quand tu vois dans l'hémicycle la façon dont ces gens-là débattent entre eux, j'ai plus l'impression que les racailles, elles sont de l'autre côté. Hein, mais ça, c'est un avis personnel.
Belle punchline. Et du coup, je permets juste d'insister une dernière fois là-dessus. On a vu Olivier Dacour qui nous a quand même proposé des choses assez quali, je trouve, hein, de mon point de vue sur les reportages qu'il a fait. Il a réussi à faire briser la glace à certaines personnes. Ce serait peut-être le profil idoine et la personne la plus adaptée pour pas refaire un remake de l'interview qu'il a fait en anglais, mais je pense que si on voit un Thierry Henry avec l'image qu'on a, l'homme fort qui sans émotion, la machine limite, quoi, c'est limite Terminator ce mec, moi quand je le voyais, tu
Bien
vois.
sûr. Eh bien, je vais te donner un exemple. Alors, sur Dacour, je vais te dire un truc. Le premier passage radio que j'ai fait, il y avait Olivier Dacour. J'étais à côté d'Olivier Dacour. Bon, il y a prescription maintenant. On était en train de faire l'after et il achetait des vêtements en même temps. Et je regardais le prix des vêtements. C'était des trucs, genre, franchement, c'était entre 1000 et 15 000 euros. Et je le regardais et il rigolait en même temps. Il disait, ça, tu dis pas là. Ça, tu le dis pas à la radio. Hein, tu fais attention. Il était tellement gentil avec moi, tellement bienveillant parce qu'il voyait que je stressais. Il essayait de me faire rire, etc. Comme Jérôme Rotten, hein, d'ailleurs, quand je suis passé à l'after, extrêmement gentil comparé à ce qu'on pourrait croire parce que des fois, il a l'air arrogant, prétentieux, etc. Mais un mec en or vraiment. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Je sais plus où je partais. Non, sur Thierry Henry. Oui, ce que ça montre, c'est que ces mecs-là, ils sont plus aptes à se confier quand ils sont en bonne compagnie, on va dire. Et là, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est que il faut arrêter de vendre à des joueurs ou à des jeune qu'un sportif est forcément donc justement Terminator ou un mec qui est indestructible et qui a jamais souffert de sa vie. Quand tu vois tous les grands sportifs, ils ont tous des grands moments de faille en fait. Et c'est, pardon, c'est quand tu veux devenir invincible, indestructible et en plus le faire croire à la terre entière que tu vas t'écrouler. Le bon exemple sur ça, pardon, c'est Tony Yoka. Tony Yoka qui nous fait un retour où il a tout prévu, tout va bien se passer, c'est le grand retour de Monsieur Yoka. Et quand ça se passe pas exactement comme prévu, il n'y a pas de réponse parce que déjà de base, à mon avis, il n'y a pas un énorme caractère. Donc ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est une phrase qui est dite par John Jones que j'aime beaucoup, c'est n'ayez pas peur de perdre du sang en chemin. Dans tous les pans de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, il y aura de la souffrance. C'est comme ça. C'est indéniable. Même Mbappé, meilleur joueur du monde, plus grand salaire du monde. Il a des moments où quand il se fait huer parce que il a fait quelque chose, enfin il s'est plaint sur le numéro 9 ou ce genre de truc, même si vous avez l'impression que devant les caméras il le prend bien, etc. Bah non, ces mecs-là ils sont toujours touchés et il faut être capable de pouvoir supporter ça. Et si tu fais croire à quelqu'un que entre guillemets tu vas tout le temps être imperméable aux critiques et à la pression, c'est aller dans le mauvais chemin. Tu ne peux pas vivre sans pression et sans adrénaline et t'en as besoin même pour réaliser ces performances-là.
Parfait, merci pour cette conclusion, elle est parfaite. Du coup, on va basculer sur les deux petites questions que je pose habituellement à mes invités. La première, quel est l'endroit idéal pour toi pour lire un bon bouquin? Ton spot à toi, dans lequel tu voudrais te retrouver avec un livre et te plonger dans une bonne lecture.
Ça va être les réponses bateau, mais moi je te dirais les zones de voyage, c'est-à-dire les avions ou les trains, parce que en fait moi ça me permet toujours d'avoir la sensation d'être déconnecté du temps, d'être dans une autre bulle on va dire, parce qu'il y a la notion du voyage. Ou sinon, ouais non ça, je suis pas trop les trucs cocooning, au calme, etc. Donc non, un endroit de voyage, ouais, très clairement.
Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux donner trois livres en recommandation, lecture footballistique?
Alors, pour le faire de façon convenable, je me suis décalé sur ma bibliothèque. Alors, le cas Mourinho, indéniablement, parce que pour moi, c'est à la fois une biographie et le meilleur livre de management qui a été écrit. Le deuxième Football Total de Stefan Kovac, où là, en fait, tu vois que tout le discours qui a été mis en avant par Daniel Riolo, notamment sur la mentalité du foot français qui était nauséabonde pendant un certain temps, ben, en fait, ça a juste toujours existé. Hein. C'est pas du tout récent. Et le troisième, j'hésite,
entre, je vais donner les deux, on va dire. Marcelo Bielsa et Loco Unchained, ou le mental des coachs, où là ça parle de foot, mais ça parle surtout de tous les sports de façon large, et je pense que ça permet de comprendre immédiatement à la sortie de la lecture la psychologie d'un sportif. Et ouais, j'insiste sur le cas Mourinho parce que je pense que ça permet de mettre un premier pas. Moi, c'est le livre, en fait, quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, on peut faire ça avec la littérature sportive, quoi. On a le droit de, parce que tout à l'heure, quand je te disais qu'il manque de la culture sur le sport en France, tout simplement parce qu'il manque des auteurs qui ont la capacité de transmettre de la culture en France, et Thibaut Leplat, comme on dit sur Call of Duty, il est top 1 à ce niveau-là, et le cas Mourinho est un livre qui te permet de comprendre que le sport est aussi un berceau de culture. Le Guardiola, Éloge du style, est très intéressant aussi, mais sur le Mourinho, il y a quand même beaucoup plus de management. En fait.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces recommandations.
Avec plaisir.
Et merci encore pour tous les livres que tu nous as livrés. Encore une fois, je le dis toujours quand je fais mes petits posts sur X maintenant, c'est au-delà du foot, c'est vraiment une ouverture et des lectures indispensables pour toute personne qui ont une mission d'encadrement, qu'elle soit hiérarchique ou fonctionnelle. C'est une boîte à outils magique. Donc allez-y, procurez-vous des.
C'est gentil, merci beaucoup.